Biodiversité on Air, un magazine proposé par la Corlab, la coordination des radios locales associatives de Bretagne, avec le soutien de l'Office français de la biodiversité.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous vous proposons un nouveau portrait d'une réserve naturelle en Bretagne. Direction le Crès-Braise, le centre-Bretagne et la réserve naturelle des Landes et Marais de Glomel. Nous sommes au cœur des montagnes noires, sur deux sites distants d'une dizaine de kilomètres qui regroupent des milieux rares et diversifiés, composés notamment de landes et de prairies humides et de groupements de tourbières. C'est sur un de ces sites, le site de Lannebergne, au nord de Glomel, que nous vous emmenons aujourd'hui à la découverte de cette réserve naturelle. C'est un portrait signé Morgan Large de Radio Crès-Braise, votre radio associative en breton et en français, en Centre-Bretagne.
Ça y est, Fédération départementale des chasseurs sur la voiture ?
Eh ben oui, parce qu'en fait on a un président commun qui s'appelle Yvon Emoyoté, qui est président et de la Fédération des chasseurs et de l'AMV.
Qui est l'AMV ?
Association de mise en valeur des sites naturels de Glomel et qui est gestionnaire de la réserve naturelle régionale des Landes et Marais de Glomel.
Et vous, c'est ?
Aline Bifolchi, je suis conservatrice du site depuis 2018.
Alors, on est venu par un petit chemin, tout plein de boue, parce qu'en fait, c'est un endroit où c'est un petit peu mouillé par ici.
Ouais, on est dans une zone humide, hein, comme un tiers de la commune de Glomel, globalement. Et effectivement, on est arrivé par un chemin d'exploitation agricole. Voilà, et on arrive dans le cœur du sujet parce qu'on voit qu'il y a de l'eau partout. Donc cette année particulièrement, c'est pas toujours le cas. Et là, en plus de l'eau, on a pas mal d'arbres couchés et de débris de la tempête d'il y a 15 jours.
Ça fait combien de temps, Aline, que vous êtes ici ? Là, on est en train de marcher sur un petit sentier pour rejoindre une partie de cette réserve naturelle régionale de Lannebergne à Glomel.
Alors moi je suis arrivée ici en tant que conservatrice en 2018, mais j'ai connu le site en 2015 parce que j'avais fait un petit CDD à l'époque où j'avais travaillé à évaluer le plan de gestion. Le plan de gestion de la réserve naturelle, c'est le gros document de planification dont toutes les réserves naturelles sont dotées. Et voilà, ensuite j'ai fait un passage dans les Monts d'Arrée et je suis revenue à Glomel.
Alors, enfin, passez par-dessus un arbre. Là, moi, je vais faire le tour par là. Et en quoi cette réserve, elle vous intéresse ? Elle a retenu votre attention ?
Mais en fait, ce qui a retenu mon attention, c'est les paysages typiques du centre-Bretagne, parce qu'en fait, on va avancer un peu sur le sentier, et on arrive sur une étendue de landes humides, et c'est juste magnifique. Et au-delà d'être beau, c'est aussi des habitats qui sont menacés au niveau européen, et pour lesquels on a une responsabilité de conservation qui est assez forte.
Ça veut dire quoi, on a une responsabilité de conservation ? Et puis c'est qui on ?
Alors, on, c'est la Bretagne, parce que réserve naturelle régionale, ça veut dire que ce sont des paysages, des espèces, des habitats emblématiques bretons et qui sont menacés de disparition, à moyen, à court terme, suivant le cas. Donc quand je dis on a une responsabilité importante, c'est en tant que gestionnaire de la réserve naturelle, on va faire tout notre possible, soit pour maintenir ces habitats, ces espèces en bon état de conservation, soit pour même en retrouver, c'est-à-dire si on a une lande dégradée, on va faire des actions de gestion qui vont permettre de la faire revenir en bon état. Et c'est ce qu'on va aller voir un peu plus loin, en plein cœur de la réserve.
En fait, si je comprends bien, c'est l'habitat qui est au centre de tout ça.
Alors oui, parce qu'en fait ici, la réserve naturelle, elle est surtout classée pour ses étendues de landes humides et de prairies humides oligotrophes, mais bien entendu pour toutes les espèces qui en découlent, parce que qui dit landes humides ou prairies humides oligotrophes dit habitat humide, acide, pauvre en nutriments, donc des conditions assez particulières, donc des espèces qui sont souvent rares et spécialisées.
Parce que ces espaces-là deviennent rares et spécialisés.
Tout à fait.
Ça veut dire que, imaginons, il y a 70 ans, des endroits comme ici à Lannebergne, cette réserve, en Bretagne, on en retrouvait plus qu'aujourd'hui ?
Ah bah oui, en fait, les landes humides notamment ont énormément régressé tout au long du siècle dernier, notamment parce qu'avant, il y avait un usage agricole notamment. Et puis l'agriculture s'est modernisée, s'est diversifiée, enfin bref, a changé. Et les landes humides, c'est plus intéressant puisque ce sont des milieux pauvres. Donc quand on arrête de les gérer, naturellement en fait, elles se reboisent en fait.
On passe à travers les branches là.
Ouais. Elles se reboisent.
Mais ça veut dire, enfin c'est des milieux pauvres, ça a toujours été des milieux pauvres, c'est pas des milieux où il y a des rendements agricoles intéressants, enfin il n'y a jamais eu, non?
Non, mais en fait avant on utilisait la litière, par exemple pour, enfin la lande pour en litière pour le bétail par exemple. Donc les landes elles étaient fauchées et puis ou pâturées. Et puis avec les produits de fauche, on faisait de la litière pour le bétail. Et puis en fait, maintenant, c'est plus du tout le cas. Mais effectivement, ça a toujours été des milieux pauvres et pas utilisés pour l'agriculture. Plus que ça.
Ouais. Ça veut dire que ces milieux-là, ils ont été abandonnés, c'est maintenant devenu autre chose, ou alors ils ont même été parfois exploités différemment, c'est-à-dire transformés pour être exploités?
Eh bien, il y a les deux cas. En fait, soit ils ont été abandonnés et puis la dynamique progressive de la végétation fait que on retrouve après des milieux complètement broussaillés qui finissent par totalement se refermer entre guillemets, c'est-à-dire se reboiser. Et soit on peut aussi trouver des landes dites cassées entre guillemets. Là c'est pour le coup, elles sont retournées, labourées en vue d'être cultivées en fait.
Et c'est pas bon.
Eh ben non, parce que quand on voit la régression à l'échelle européenne de ce type d'habitat et toutes les espèces rares et protégées qu'elles abritent, ben non, en fait, c'est complètement catastrophique.
J'entends pas, c'est complètement...
c'est la cata, quoi, c'est complètement catastrophique, finalement.
Alors, il y a quoi on a dit les salamandres et les tritons. C'est vos deux espèces emblématiques sur cette réserve naturelle régionale. Parce que dernièrement, j'étais sur un bateau, je suis allée voir des phoques. Donc là, les salamandres et les tritons...
Alors non, c'est pas forcément les espèces emblématiques. En tout cas, c'est celles qui sont les plus connues du grand public. Ici, la réserve naturelle, elle a surtout été classée pour des espèces végétales. Qui sont pas très connus, qui sont pas forcément très spectaculaires à observer, mais qui pour le coup sont très rares et très spécialisés. Alors ça peut être des sphaignes, la sphaigne de la Pilet.
C'est tout petit,
c'est noir. Ça peut être aussi une fougère primitive, le lycopode inondé. Ou alors le rhyncosport brun. Donc là, on est sur des espèces végétales qui sont quand même pas très connues et qui... en fait, concentre une grande partie de notre attention parce qu'en fait, elles sont très rares, elles régressent. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, en fait, on abrite une part importante de la population bretonne pour certaines de ces espèces. Et puis sinon, on a un papillon qui, lui, est protégé, il n'y en a pas beaucoup. Il s'appelle le damier lassuxis, c'est aussi l'emblème de la MV, l'association. Et c'est un papillon qui est rare, qui régresse fortement parce qu'il ne se reproduit quasiment que sur une espèce, c'est la succis des prés. En fait, le papillon va pondre...
Une espèce végétale, c'est ça ?
Végétale, oui. Le papillon va pondre, en fait, sous les feuilles de succis, parce que les chenilles, ensuite, vont se nourrir de ces feuilles.
Juste cette plante-là ?
Quasiment, oui.
Elle doit être très bonne, hein ?
J'imagine, oui. D'ailleurs, elle est très appétante parce que, en fait, quand on a de la succis des prés, on évite de mettre du pâturage sur ses parcelles parce que les brebis la grignotent facilement.
Ça y est, on est au cœur de la réserve. Là, on a fait un petit déplacement à pied. On va décrire un peu le paysage. Moi, je vois ça un peu comme... une très grande étendue plate. Comme il y a des collines autour, on a l'impression que c'est un petit peu plus bas qu'ailleurs. Ça ressemble un peu à une savane africaine, sauf que c'est trempé et qu'il fait froid. Et il y a quelques arbres quand même à droite à gauche. Je décris bien ou quoi ?
Ouais, complètement. On est sur le vaste plateau des landes humides et tourbeuses de Landberne. Ici, il y a quasiment 80 hectares de cet habitat typique qui avant était beaucoup plus présent en Bretagne. Et effectivement, on voit qu'on est sur un niveau plus bas et ben, en fait, l'intégralité de ce qu'on a devant nous, c'est classé zone humide.
Et réserve naturelle.
Et réserve naturelle régionale, effectivement.
Qu'est-ce que vous faites ici, vous ?
Alors, ben, la première chose qu'on fait, c'est de protéger le site. Et puis bah, l'étudier, forcément, on a des suivis qu'on peut faire tous les ans ou à pas de temps plus régulier pour connaître un peu les espèces qu'on y trouve et puis leur évolution. Ensuite, on fait aussi beaucoup de gestion parce que les landes humides et les prairies sont des habitats qu'on dit semi-naturels, c'est-à-dire que sans intervention, ils se refermeraient, ils ne se maintiendraient pas. Et puis enfin, on fait de la sensibilisation, c'est-à-dire découverte pour le public.
C'est pour ça qu'il y a des mares, ou alors les mares, elles servent à autre chose qu'à la sensibilisation, parce qu'il y a une petite mare devant nous, là, mais il me semble qu'elle est assez intéressante. Et puis, je sais qu'il y en a une autre un peu plus loin, avec un pont, un super pont d'ailleurs, qui permet d'enjamber cette mare.
La plupart des mares ici sont naturelles, et puis il y a certaines, bah, comme cette mare pédagogique, qui a été creusée justement pour un peu sensibiliser le public.
Et vous emmenez les gens le soir ?
On les emmène, effectivement. Alors, tout l'été, on fait des animations. Ça, c'est plutôt les après-midi. Et sinon, en hiver, on fait des animations nocturnes, effectivement, pour voir les espèces qui se reproduisent dans l'eau.
D'accord. Il y a Pierre qui nous a rejoint.
Bonjour.
Bonjour. Vous êtes, vous aussi, garde sur la réserve ?
Garde technicien sur la réserve naturelle, absolument.
Pierre comment ?
Pierre Serrault. Donc, moi, mon poste, il y a trois missions, on va dire... principale. Donc la mission de garde, donc surveillance et application de la réglementation sur la réserve. Donc là on est plutôt sur le volet surveillance et protection. Également du coup technicien, donc là c'est le plus gros de montant sur la gestion de la réserve, donc la gestion des milieux. Que ce soit la fauche, broyage pour la gestion mécanique, gestion aussi par pâturage, donc le faire tourner en fait les animaux sur les différentes parcelles de la réserve, s'occuper aussi d'eux, que ce soit en été ou en hiver, pour le foin ou l'eau.
Et quoi comme animaux ?
Du coup, on a 6 poneys, on va dire troupeaux européens, il y a un petit croisement, et on a 4 bœufs aussi de race nantais, qui viennent d'une réserve naturelle dans les monts d'Arrée. Donc bien adaptés au milieu landicole. J'ai une autre partie de mon travail qui est sur les suivis naturalistes, comptage, inventaire des espèces animales ou végétales, en dehors et sur la réserve aussi.
Vous mettez des contraventions aux gens ici ? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire, les gens qui n'est pas autorisé ?
Alors, qu'est-ce qu'ils peuvent faire qui est autorisé ?
Non, qui n'est pas autorisé, qui peut leur faire valoir de se faire réprimander ?
Ah bah, par exemple, avoir un chien qui n'est pas tenu en laisse, parce que comme on est sur une réserve naturelle régionale, on a beaucoup d'espèces. Qui peuvent être très sensibles au dérangement. Alors, on a souvent l'impression que son chien il reste à ses pieds et qu'il ne dérange pas, mais ce n'est pas toujours le cas en réalité. Donc les chiens ici sont autorisés, mais tenus en laisse uniquement. Et puisque ce qu'ils peuvent faire aussi, c'est... on trouve parfois des gens hors sentier. Et là, c'est pareil pour respecter la quiétude en fait, des espèces.
Le statut réserve naturelle, c'est le statut le plus fort en France pour protéger un espace. Donc forcément, il y a une réglementation qui s'applique. Certains diront qu'elle est contraignante.
Pas de camping. Ouais.
Voilà, donc ce qui est du coup interdit, c'est tout ce qui peut déranger en fait, la faune ou la flore. Donc que ce soit sur la fréquentation, donc sortir des sentiers, les chiens pas en laisse, le camping, la chasse... la pêche, la cueillette évidemment.
Parfois il y a des gens qui ont envie aussi de faire un bouquet de succis des prés et puis quand on connaît l'enjeu pour le fameux damier de la succis, on leur dit que la succis c'est une très belle fleur mais qu'on la laisse aux papillons, on ne la cueille pas pour faire des bouquets par exemple. Mais là justement on va aller au cœur de la réserve naturelle.
D'accord.
On va faire du hors-sentier.
Oui bah c'est ça, donc on va remplir les bottes d'eau, non ?
Voilà.
Oh. Moi les miennes sont légèrement plus courtes que les vôtres.
On va passer, on va passer sur les points les plus hauts.
Oui.
Et voilà. L'idée c'est d'aller voir là dans un secteur qui n'est pas du tout fréquenté et qui est très peu géré. On va aller voir les actions qui ont été réalisées cette année.
Eh ben on y va, c'est parti. Ah on a plein de. Oh il y a un cerf là-bas. Deux biches. C'est pas des chevreuils, ça.
Non, non on voit que c'est nettement plus haut.
Incroyable. Il y a des biches ici, alors.
Oh oui, des biches, des cerfs, des faons, des daguets.
D'accord. J'ai l'impression que le sentier, là, il est drôlement bien. Bon, alors, il y a un petit peu de branches, un petit peu de feuilles, mais il est tout plat, il est dur, il n'est pas... Vous avez fait un sentier un peu spécial sur cette réserve, Aline Bifolchi.
Alors oui, là on est... Bah, alors en ce moment c'est pas très révélateur puisque suite à la tempête on a pas mal de branches, mais ici on est sur un sentier qui est un peu spécial, qui a été sablé et qui est labellisé tourisme et handicap. Donc l'idée ici c'était de promouvoir l'accueil des personnes en situation de handicap, notamment handicap moteur. Donc on respecte une certaine pente et puis on va voir qu'on peut aller jusqu'à l'entrée des Landes comme ça. Donc c'est aussi utilisé par les familles et puis notamment tous les gens qui se promènent en poussette. Il n'y a pas beaucoup d'espaces naturels qui sont accessibles. Donc ben voilà, on essaye de faire en sorte de conserver ce label.
Elle appartient à qui cette réserve là ? À l'association de mise en valeur des Landes de Landberne ?
Non, l'association n'est que gestionnaire du site. En fait, le site en lui-même est propriété de la Fondation pour la protection des habitats de la faune sauvage et la Fédération des chasseurs des Côtes d'Armor. Voilà. En général, ce sont des sites qui sont gérés par les fédérations de chasseurs et on est un petit peu un cas particulier. C'est qu'ici, la fédération étant à Plérin, donc assez loin, il y a une association locale qui a été créée pour gérer le site. Très humide. En fait, ça n'a quasiment jamais séché.
Cette année ?
Ouais. D'habitude, le ruisseau de Landberne, ça sèche de juillet jusqu'à fin octobre, début novembre, là, les premières pluies. Et là, l'eau a coulé toute l'année.
Et c'est bien pour vous, ça, non ?
Ah bah oui, en fait, ici, c'est ce qu'on recherche. Et notamment, suite à une année très sèche comme l'an dernier, où on se faisait un peu de soucis pour toutes les espèces liées aux zones humides, parce que l'année précédente, ouais, c'était vraiment tout le contraire, quoi.
Alors là, spécifiquement, c'est quoi ? C'est une trace de tracteur ?
En fait, justement, tout à l'heure, j'évoquais les chantiers qu'on a eus cet été. Donc, il y a eu du bûcheronnage, du broyage export et du bouchage de fossés. Vu que l'été a été quand même plutôt humide, ça n'a jamais vraiment séché. L'automne est arrivé rapidement avec de l'humidité. On s'est fait un peu avoir, entre guillemets, si on peut dire. Donc, il y a des opérations de gestion qu'on traînait un petit peu pendant l'automne. Et donc, forcément, le sol commençait un petit peu à être mouillé. C'est pour ça qu'on trouve que la surface un peu du sol est un petit peu comme ça, étrépée. Humide, c'est à cause des passages d'engins. Donc il y a eu des tracteurs forestiers, tracteurs et engins spéciaux pour le broyage export. Et du coup, dernièrement, l'appel à chenilles pour boucher les fossés.
Alors, bûcheronnage, c'est pour les petits arbustes, là ?
Ouais, alors des arbustes plus ou moins gros, il y avait un peu de toutes les tailles. C'était des zones qui étaient refermées depuis pas mal de temps.
Donc vous tuez les arbres dans les réserves naturelles ?
En fait, on peut comprendre que les gens se posent la question. En fait, il y a des paysages, des habitats de milieux ouverts, où l'une des menaces, entre guillemets des menaces, c'est la fermeture, puisque si des arbres du coup arrivent de façon naturelle, poussent, ça fait que au sol il n'y a plus de lumière et ça change l'habitat. Alors c'est le
Donc
cycle naturel.
Ça devient un boisement, quoi.
Ça devient un boisement. C'est le cycle naturel des choses, en tout cas en Europe occidentale. Néanmoins, aujourd'hui, du fait de l'activité humaine, ces milieux sont devenus tellement rares que on a la chance d'en avoir. Il reste que 2% des Landes en Bretagne depuis 200 ans à peu près. Donc, sur les 2%, on essaye de les gérer le mieux possible, quoi. Donc ça passe notamment par la réouverture du milieu, donc des actions de bûcheronnage, ou même de fauche ou de broyage ou des fois de pâturage.
Et ça, vous avez fait donc fauche, broyage. Puis vous avez dit un dernier truc, c'est bouchage des fossés.
Oui. Donc,
c'est quoi ça ?
Eh bien, Landberne, comme beaucoup d'endroits en France et en Bretagne, il y a eu des tentatives après la guerre d'intensification de l'agriculture. Donc il y a eu, vu que c'était une zone humide, ils ont essayé de drainer Landberne, comme d'autres endroits, donc de creuser des fossés. Donc ces fossés, du coup, remplissent leur rôle, drainent. Alors c'était pas encore assez sec pour que l'agriculture intensive puisse vraiment s'installer sur ces zones-là. Néanmoins, ces fossés sont restés. Et donc jouent un rôle, qu'on juge plutôt néfaste en tout cas, nous, sur du coup l'humidité des parcelles. Et ça explique aussi pourquoi il y a beaucoup d'arbres qui s'installent dans certaines zones, c'est que aussi, le fait que ces zones soient un peu plus sèches, ça favorise le développement de la forêt. Donc en bouchant les fossés, on retrouve le milieu naturel d'origine, Et en plus, le fait d'humidifier un peu plus ces zones-là, normalement, ça contribuera aussi au maintien en milieu ouvert.
Ah bah le voilà, le gros tas de broyat, c'est ça ?
Tout à fait. Il a déjà.
Faut que ça parte, faut pas que ça reste.
Bah idéalement oui, parce que alors même si normalement il n'y a pas vraiment d'azote, pas beaucoup d'azote dedans. Idéalement c'est chevalier cul blanc. Donc ça c'est l'oiseau qu'on voit passer chevalier cul blanc. Donc c'est un limicole. Donc là on voit que alors c'est vrai que par rapport à Aline, je suis un peu plus pro-gestion, mais là, c'est vrai que vous seriez venu il y a quelques mois. On était sur un fourré de saules et de bouleaux. Aujourd'hui, on a vraiment une espèce vraiment inféodée au milieu ouvert et humide.
Ils étaient là avant ?
Bah non.
Bah non, ils n'étaient pas là.
Non, ils étaient plutôt du côté de l'étang du Coron, effectivement.
Waouh, génial ! Mais il est là, il s'est posé là ?
Oui, il s'est posé. Bah après, ici, c'est très humide. On voit qu'il y a une nappe d'eau à peu près partout, avec potentiellement des proies qu'il peut capturer plus facilement, parce que c'est ouvert, en fait. Il voit autour de lui, il est moins sujet à la prédation. Donc voilà.
Il est venu parce qu'il y avait la radio, peut-être, non ?
Peut-être. Peut-être qu'il vous écoute.
Mais je sais pas. Il voulait être dans le reportage, on dirait.
Et donc...
puis il repasse.
Voilà.
Ils sont deux.
Ils sont deux, tout à fait.
Ouais. Six champs sympas, hein.
Ouais. Donc, c'est la même famille que les bécasses, les bécassines, le même ordre.
C'est quoi votre saison préférée sur la réserve ?
Question très difficile. Tout et aucune à la fois.
Aline ?
J'aurais du mal à répondre aussi. Alors, j'aime beaucoup l'été, moi, avec toutes les teintes de mauve et de rose. Mais l'hiver, en fait, ici, vous avez un petit côté un peu envoûtant, là, avec la brume. Il y a une atmosphère qui est vraiment spéciale, je ne sais pas trop la décrire, mais...
Ouais, il y a de la brume parce que c'est très humide.
Voilà, et donc, en fait, c'est un petit côté un peu mystérieux que j'aime beaucoup aussi.
C'est quoi l'équipe, justement, chez vous ? On n'en a pas parlé.
À la MV, on est 3 salariés. Donc, il y a Pierre Serrault, qui est garde technicien. Il y a Mélanie Uliac qui, elle, est chargée de mission en écotourisme. Et puis, il y a moi sur le poste de conservatrice. Et puis, chaque année, on essaye d'accueillir au moins un volontaire en service civique et 5-6 stagiaires. Souvent des étudiants en gestion des milieux naturels et de la faune, mais ça peut être aussi des BTS-GPN.
Donc chacun peut être amené à faire différentes missions, quoi.
Voilà, on a un rôle principal, un poste principal, mais quand on est sur une petite association, en fait, on est forcément très polyvalent parce qu'on est amené à donner des coups de main aux collègues très régulièrement, quoi. Donc je ne conduis pas le tracteur, mais je peux aller aider Pierre à tirer des branches.
Pourquoi vous ne conduisez pas le tracteur ? C'est très facile à conduire un tracteur.
Bon, c'est juste parce que je n'ai pas le temps de passer les cassettes, on va dire.
Ah, il faut un cassette.
C'est mieux. Alors, on peut faire sans, mais si en cas d'accident, forcément, la responsabilité du chauffeur ou de l'employeur sera engagée. Donc, c'est toujours mieux d'être en règle.
Alors, on est sur le chemin du retour, là. On a passé des super belles mares. Hein. Moi, j'avais une question à vous poser. Est-ce que, dans l'idéal, il faudrait qu'elle s'agrandisse, cette réserve ? Et est-ce qu'elle a des espoirs de pouvoir s'agrandir ?
Bah oui, bien évidemment, il faudrait qu'elle s'agrandisse.
Aline ?
C'est le cœur qui parle. Hein. Je ne peux pas vous répondre autre chose que ça. C'est facile à comprendre, en fait. Hein. Si on maintient un petit espace protégé autour d'une immensité qui est complètement dégradée, en fait, notre boulot, il rime à rien, quoi, en fait. Voilà. Donc, on travaille actuellement à essayer de l'agrandir. Et puis aussi, ça peut passer par d'autres moyens, c'est de favoriser des pratiques favorables autour de la réserve naturelle. C'est-à-dire que là, on va chercher non pas le classement réserve naturelle régionale, mais on va aller travailler avec des agriculteurs, par exemple, sur les mesures agro-environnementales et climatiques, par exemple.
Ça veut dire que vous allez sur des exploitations agricoles, qui ont des milieux un peu intéressants, voilà. Pour essayer de favoriser des bonnes pratiques pour la biodiversité.
Tout à fait. Ça peut être, par exemple, pour faire de la fauche plus tardive, pour respecter davantage le cycle des espèces. Ça va être pour limiter les intrants aussi sur certaines parcelles. Voilà, ce genre de pratique qui va être plus respectueuse de l'environnement et qui va permettre en fait aux espèces de circuler. Parce que en fait, la limite de la réserve naturelle, elle a de valeur qu'à nos yeux, à nous, mais pour les espèces, c'est complètement abstrait, quoi. Donc les espèces, elles sont là pour circuler, se déplacer.
Il ne faut pas que ce soit des isolats.
Voilà, tout à fait.
Voilà à l'instant pour ce portrait de la réserve naturelle de Glomel, signé Morgane Large de Radio Crèze-Braise. A noter que cette réserve naturelle des Landes et Marais de Glomel fait partie intégrante de deux sites Natura 2000, les Landes de Lannebergne, dont on vient de parler, mais aussi les Marais de Maguire-Penverne. C'est la Fondation pour la protection des habitats de la faune sauvage qui est propriétaire des parcelles de ces sites. Et comme on l'a compris dans le portrait, la Fédération départementale des chasseurs est généralement habituée à gérer ce type de domaine. Mais cette fédération a choisi ici de confier la gestion à une association loi 1901, l'Association de mise en valeur des sites naturels de Glomel, l'AMV. Et une convention tripartite lie aujourd'hui ces différentes structures. Quoi de mieux pour se rendre compte de la richesse de ce milieu que de venir le visiter ? La réserve organise une fois par mois, de février à septembre, une visite guidée. Il y a aussi des sentiers aménagés pour découvrir le site en toute autonomie. Toutes les infos sur cette réserve, réservenaturelledeglomel.com. Et puis, retrouvez toutes nos émissions sur vos radios locales associatives, sur Radio Boa, leur émanation régionale sur la radio numérique terrestre en Bretagne, et en podcast sur le site corlab.org. À bientôt pour un nouveau numéro de votre magazine dédié aux actions en faveur de la biodiversité en Bretagne. Et d'ici là, prenez soin de vous, et donc prenez soin de la planète.
C'était Biodiversité on Air, un magazine proposé par la Corlab, la coordination des radios locales associatives de Bretagne, avec le soutien de l'Office français de la biodiversité.